Vous écoutez France Culture.
Bonjour Maïwenn.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Au Mali, la campagne pour l'élection présidentielle s'est terminée hier. 8 millions d'électeurs sont appelés à voter demain dans un contexte d'insécurité. On ira à Mopti dans ce journal, une ville du centre du pays visée par des attaques djihadistes. Israël annonce la construction de 400 nouveaux logements dans une colonie de Cisjordanie occupée. Une riposte à une attaque palestinienne hier. 4 personnes ont perdu la vie au total. Les tensions entre Gaza et Israël ne faiblissent pas. Précision de notre correspondante à Jérusalem. Au Nicaragua, le gouvernement de Daniel Ortega renvoie 40 médecins et infirmiers pour avoir soigné des manifestants. La contestation dure depuis 100 jours et pourrait s'essouffler, comme nous l'expliquera une cinéaste française qui documente la crise depuis Managua, la capitale. Les copies de vidéosurveillance que s'est procuré Alexandre Benalla étaient en fait autorisées par une note illégale de la préfecture de police de Paris. Une information de nos confrères de France Inter, on y revient à la fin de ce journal. Au Mali, dernier meeting hier après 3 semaines de campagne. 8 millions de Maliens sont invités demain à choisir leur futur président entre 24 candidats, dont une seule femme. Et 2 favoris se distinguent déjà, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, le président sortant, et Soumaïla Cissé, son ancien ministre des Finances au profil plus technocrate. L'élection se tiendra sous haute surveillance militaire et notamment à Mopti, la grande ville du centre du pays, visée ces derniers temps par des attaques djihadistes. Reportage sur place de François-Xavier Frelon.
Une chose est sûre, Mopti, l'ancien fief du président Amadou Toumani Touré, renversé par un coup d'État en 2012, ne votera pas Ibeka, l'actuel président pourtant favori. Cette ville était autrefois le grand carrefour commerçant du Mali. C'est ici que partent et arrivent encore quelques pirogues de Tombouctou, chargées de vivres et de produits en tout genre. Mais désormais, l'économie de la ville fonctionne au ralenti. Le tourisme n'existe plus autour du célèbre pays Dogon, juste à côté, à cause des actes terroristes et des luttes ethniques qui se sont répandues tout autour, au centre du Mali. Pas plus tard que cette semaine, c'est l'aéroport de Sévaré, juste à côté, qui a été visé par des tirs d'obus. Mopti, une ville symbole du chaos actuel, selon Soumaïla Cissé, l'opposant principal au président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Entre 2 avions, l'opposant est venu clôturer sa campagne à Mopti pour parler justement de sécurité.
Vous savez, dans le temps, c'était pratiquement la deuxième ville économique du Mali, hein, avec l'exploitation du poisson, des poses de cuir en direction du Ghana, etc. Les difficultés liées à la pauvreté sont là, de façon générale. Si bien que ça crée des problèmes d'errance, et ça crée des problèmes d'emploi, et ça finit toujours par le djihadisme.
Des jeunes au chômage qui se tournent vers la religion et parfois vers le djihadisme, une justice corrompue, un sentiment d'abandon face à un État absent. Pour le scrutin présidentiel de dimanche, d'importantes mesures de sécurité ont été prises, en protégeant notamment les bureaux de vote dans le Nord, mais aussi dans la région de Mopti.
Reportage de François-Xavier Frelon. Nouvelle violence hier lors d'une manifestation dans la bande de Gaza. 3 personnes ont été tuées du côté palestinien, 1 personne du côté israélien. Tous les vendredis, des manifestants se rendent à la frontière avec Israël pour demander le droit du retour des réfugiés palestiniens sur leur terre. Ces manifestations ont déjà fait 156 morts et des milliers de blessés depuis fin mars. La perspective d'une guerre entre Israël et Gaza occupe désormais tous les esprits. À Jérusalem, précision de Marie Semelin.
7000 personnes manifestaient hier d'après l'armée israélienne qui évoque des heurts violents et ses directives sont inchangées, tirées sur quiconque s'approche trop près de la frontière. Un homme de 43 ans et un garçon de 12 ans sont morts de tirs dans la tête. Ce matin, un adolescent de 17 ans est aussi mort de ses blessures. Les tensions sont sur plusieurs fronts. Aux manifestations s'ajoutent les cerfs-volants. Le gouvernement israélien veut une réponse militaire à ces cerfs-volants incendiaires envoyés par les manifestants gazaouis qui ont provoqué de nombreux départs de feu dans l'État hébreu. Et depuis la fin mai, les bombardements israéliens et les tirs de roquettes gazaouis sont devenus réguliers. Dans le reste des territoires palestiniens, en Cisjordanie cette semaine, une attaque au couteau d'un Palestinien dans une colonie israélienne a fait 1 mort et 2 blessés. En riposte, Israël a annoncé la construction de 400 nouveaux logements dans cette même colonie. La situation est très volatile et sur les ondes et les plateaux télé, les analystes analystes politiques s'interrogent. Y aura-t-il une nouvelle guerre? L'Égypte et l'ONU tenteraient de négocier une trêve entre Israël et la bande de Gaza, impliquant notamment un allègement du blocus imposé à l'enclave palestinienne. Sans succès pour l'instant.
Correspondance à Jérusalem de Marie Semelin. Au Nicaragua, 40 médecins et infirmières ont été renvoyés hier de l'hôpital public de León, dans le nord-ouest du pays où ils travaillaient. Ils sont accusés d'avoir soigné des manifestants et soutenu des rassemblements contre le président Daniel Ortega. Depuis 100 jours, le Nicaragua est touché par une vague de manifestations violemment réprimées par le régime. Environ 300 personnes ont été tuées. La contestation ne s'essouffle pas, mais les jeunes qui mènent la fronde sont arrêtés, ce qui pourrait finir par asphyxier le combat. Comme l'explique Florence Jauget, elle est cinéaste et travaille au Nicaragua depuis 25 ans. Depuis 3 mois, elle documente la crise.
On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ça fait 100 jours, les gens sont épuisés. Combien de temps vont-ils tenir? Combien de morts encore va-t-il falloir? Va-t-il falloir que le peuple s'arme? C'est ça qui est terrible. Je veux dire, combien de temps va tenir ce peuple?
Mais ce peuple dont la jeunesse se révolte peut s'offrir un peu d'horizon parce que justement, précisément, c'est la jeunesse qui porte ce nouveau souffle.
Oui, mais comment arriver à débouter ce régime? C'est ça le problème. Par exemple, les étudiants qui ont été les leaders des différents mouvements étudiants et qui se sont opposés ouvertement à Daniel Ortega ont des restrictions migratoires, sont enfermés sont cachés. Toutes les personnes qui étaient assises à cette table de négociation, Eduardo Marena, qui est le leader paysan, est en prison depuis plus de 10 jours. Il a été arrêté à l'aéroport parce qu'il allait à un rendez-vous aux États-Unis d'une association de paysans. On ne sait pas où il est, on n'a pas de ses nouvelles. Une autre leader a été aussi arrêtée. On ne sait pas où elle est, on n'a pas de ses nouvelles. Donc c'est ça la difficulté. Maintenant, il y a une espèce de chasse aux sorcières de toutes les personnes qui se sont opposées ouvertement au régime.
Florence Jauget, jointe à Managua par Mathieu Laurent. Carles Puigdemont de retour en Belgique aujourd'hui. C'est depuis Waterloo, dans la banlieue bruxelloise, que le leader indépendantiste catalan compte désormais poursuivre son combat séparatiste sur la scène internationale. Il y a 4 mois, l'ex-président de la Catalogne avait été arrêté en Allemagne alors qu'il rentrait en Belgique où il était exilé. L'Espagne a finalement retiré le mandat d'arrêt européen le visant, ce qui lui permet désormais de circuler librement dans tous les pays européens, sauf à Madrid où un mandat d'arrêt national a été émis contre lui. C'est une nouvelle vidéo embarrassante pour Alexandre Benalla. On le voit aux côtés de Vincent Crase, un salarié de La République En Marche, participer à une autre interpellation illégale dans le cortège du 1er mai. Le jeune homme interpellé a d'ailleurs porté plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet de Paris a de son côté étendu hier la saisine du juge d'instruction dans l'affaire Benalla. L'enquête du magistrat concerne donc également des faits de recel, de détournement d'images issus d'un système de vidéoprotection et recel de violation du secret professionnel. Car les 3 policiers qui ont transmis ces images à Alexandre Benalla le 18 juillet l'ont fait illégalement. Ils ont été depuis mis en examen. Selon une information de nos confrères de France Inter, ces copies de la vidéosurveillance étaient en fait autorisées par une note illégale de la préfecture de police de Paris que Sophie Parmentier s'est procurée.
La note date du 21 février 2017. Elle est signée de la main d'Alain Giblin, directeur de l'ordre public et de la circulation à Paris. Cette semaine, devant les députés, ce directeur a dénoncé l'attitude des 3 policiers qui ont transmis le 18 juillet à Alexandre Benalla une copie de la vidéoprotection du 1er mai. Le préfet de police les a lui aussi accusés de dérive et de copinage malsain et le préfet de rappeler devant la commission d'enquête que ces images auraient dû être effacées au bout d'un mois. Comment donc expliquer qu'elles existent encore en juillet. En fait, celui qui reconnaît avoir fait une copie de la vidéosurveillance dès le 2 mai, le commissaire Maxence Creusat, avait carte blanche dans son service pour le faire, selon cette fameuse note numéro 16-2017 que nous nous sommes procurés. Cette note autorise l'extraction d'images de vidéoprotection dans le cadre de retours d'expérience pour des synthèses internes à la préfecture de police de Paris. Le problème, c'est que la loi ne le permet pas puisque la loi ordonne l'effacement automatique automatique débande au bout de 30 jours, sauf en cas de réquisition judiciaire.
Et en pleine affaire, Benalla, Emmanuel Macron remonte légèrement dans l'opinion, selon la dernière édition du baromètre Harris Interactive Daily d'opinion publié aujourd'hui. 42% des personnes interrogées font confiance au chef de l'État, un score en hausse de 2 points par rapport au mois dernier. La météo de cet après-midi, quelques averses et orages de l'Alsace à l'est du Rhône. Le ciel est nuageux, notamment dans le sud-ouest, avec des températures en baisse, 20 à Brest et 24 à Toulouse. Il est midi 40 sur France Culture. Ce journal a été réalisé par François-Charles Domergue et Alex Dang à la technique.